France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
À l'heure où la recherche et la science sont vertement attaquées aux États-Unis en particulier, comment poursuivre la transmission des savoirs liés au changement climatique? Comment les rendre opérants également, leur permettre d'infuser, de tordre nos politiques publiques, nos visions du monde, notre approche du réel? Pour en discuter, Nathanaël Vallenhorst, bonsoir.
Bonsoir Quentin Laffaye.
Merci, vous êtes docteur en sciences de l'éducation, en sciences de l'environnement et en sciences politiques. Vous êtes professeur à la faculté d'éducation à l'Université catholique de l'Ouest et vous faites paraître cet ouvrage passionnant intitulé « Contenir l'emballement bioclimatique ». C'est aux éditions Actes Sud dans une nouvelle et belle collection intitulée « Système Terre ». Merci d'être avec nous ce soir dans « Question du soir ».
Dès l'instant où vous identifiez que l'université, la science, la recherche, c'est votre ennemi, c'est la marque très clairement d'un régime totalitaire et vous rentrez dans l'obscurantisme. Et on a des conséquences qui se font déjà attendre. Ce sont évidemment les licenciements massifs, ce sont les interdictions de certains sujets de recherche dont vous avez parlé. C'est Johns Hopkins qui licencie 2000 personnes, c'est l'université Harvard, souvent considérée comme la meilleure du monde, qui annonce le gel de tout recrutement parce qu'elle ne veut pas se mettre en difficulté au vu de l'incertitude sur ses financements futurs. Et ça dit beaucoup, effectivement, de ceux qui essayent de mettre l'université à mal.
La voix de François Gémen, il était l'invité de Questions du soir vendredi dernier. Nathanaël Vallenhorst, est-ce que vous considérez vous-même qu'aux États-Unis, s'agissant des savoirs climatiques, bioclimatiques qui vous intéressent en particulier, les États-Unis sont entrés dans une ère obscurantiste également ?
Oui, ça c'est sûr. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, en tout cas, en France, on a des traces, en tout cas, de cette dimension-là. En 2022, les lycéens qui préparaient le baccalauréat de SES, du parcours de spécialité, donc sciences économiques et sociales, ils ont eu à plancher sur le sujet d'examen suivant. À l'aide d'un exemple, vous montrerez la façon dont l'innovation peut repousser les limites écologiques de la croissance. Avec un sujet comme celui-là, donc on voit différentes choses, une confusion entre les processus écologiques et les limites planétaires, mais on voit aussi que les limites, là, ne sont pas positionnées comme le cadre au sein duquel développer des activités humaines, mais quelque chose à repousser toujours plus loin, etc., dans une logique très prométhéenne, qui, au final, a une face aussi sombre et obscurantiste, parce qu'on scie avec détermination la branche sur laquelle on est assis.
On est d'accord que ce sujet pose d'innombrables questions, et d'ailleurs, nous y reviendrons, mais tout de même, est-ce que c'est le même degré d'obscurantisme? Est-ce qu'à travers ce sujet, c'est la science même que l'on attaque, la science même et ses fondements que l'on remet en cause?
Donc, bien sûr, en tout cas, il y a une différence de degré. Ça, c'est clair et net. Et puis là, on a affaire à des attaques ciblées, crasses, à l'égard de la science. Voilà. C'est comme un analyseur de ces propos de Hannah Arendt qui dit que lorsqu'on n'arrive plus à se mettre d'accord sur les faits, le spectre totalitaire apparaît et on sort de l'espace démocratique. Et oui, on a affaire à ça en ce moment de façon massive, ça c'est indéniable.
Vous qui, j'allais dire, investissez cette question du changement climatique depuis des années maintenant, Nathanaël Vallenhorst, est-ce que vous avez le sentiment que ces dernières semaines, ces derniers mois, la priorité climatique a largement descendu dans la hiérarchie médiatique, dans la hiérarchie politique également? Et est-ce que le combat contre le réchauffement en souffre particulièrement?
Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Et pour moi, il y a comme une étape qu'on a d'une certaine façon jamais attaquée. C'est une franche et nette éducation scientifique qui permette de comprendre réellement le paradigme, la logique qui donne tout son sens aujourd'hui à la production des savoirs scientifiques contemporains, qui est la rupture. Demain n'est pas dans le prolongement d'aujourd'hui. Et la façon dont on a été formés les uns et les autres, et puis en particulier à l'école, c'est autour d'un paradigme linéaire, voilà, où demain est dans le prolongement d'aujourd'hui. C'est pour ça que si on bosse bien à l'école, on va avoir un avenir, quoi, d'une certaine façon. Et de comprendre, de ressentir, d'éprouver cette non-linéarité, non-proportionnalité qui est le principe même du fonctionnement du système Terre, là, on n'y est pas encore, quoi. Et c'est ce qui fait aussi que les attaques obscurantistes, d'une certaine façon, elles ont une telle efficience.
Je vous cite Nathanaël Vallenhorst dans ce dernier ouvrage qui paraît donc aux éditions Actes Sud. Vous écrivez « Les laboratoires des universités ont produit les savoirs bioclimatiques, mais les paradigmes dominants des formations de l'enseignement supérieur demeurent largement inchangé. Au mieux, on y ajoute un supplément éthique, comme un cours de transition écologique, c'est entre guillemets. Mais avons-nous pris la mesure de la nécessaire révolution écologique copernicienne contemporaine ? Cela signifie que, si je vous lis bien, qu'il n'y a pas seulement le rapport à la science qui est en cause, c'est au sein même des universités qu'on n'a pas pris la mesure des bouleversements induits par le changement climatique.
On reste dans nos universités avec un fonctionnement en silo et donc un prof de droit, il continue de faire du droit constitutionnel, quelqu'un qui est en STAPS et qui enseigne la biomécanique, il continue d'enseigner la biomécanique, etc., etc., ou la psychologie cognitive, etc.
C'est ce qu'on demande à ses enseignants, cela dit.
C'est ce qu'on demande aux enseignants et ce qui organise la production des savoirs scientifiques contemporains de ces champs disciplinaires-là demeure fondé sur un paradigme qui est relativement linéaire. Et la non-linéarité ou la non-proportionnalité qui est le propre du réel, un réel auquel on n'a accès que par la médiation des articles scientifiques et des articles scientifiques d'un corpus tout particulier, que sont ceux qui portent sur le système Terre, n'a pas été pour l'instant structurant dans la production du savoir contemporain des différents champs disciplinaires. Et ça, c'est un drame, parce qu'en fait, si on prend le parcours du point de vue d'un étudiant, l'étudiant, il arrive, il est en sociaux ou en je ne sais pas quoi, et puis il a différents cours, et puis il se retrouve à avoir 18 heures en général par semestre d'un cours intéressant, très intéressant, qui procède du rapport Jouzel Abadi qui a été écrit là il y a deux ans, avec des cours sur la transition écologique, sur aussi, pourquoi pas, des cours biogéophysiques sur le système Terre. Mais ça reste une petite case, et puis tout le reste, ça reste sous-tendu par un paradigme linéaire. Et donc, par effet induit d'une certaine façon, les universités, à certains égards, continuent d'être des lieux, alors faut peut-être que je fasse attention à ce que je vais dire, mais de production du climato-scepticisme, en fait.
Voilà, les universités françaises sont un lieu de production du climato-scepticisme.
C'est-à-dire, entendons bien, non pas un lieu de négation des savoirs climatiques, mais on accorde une telle importance à des savoirs qui reposent sur un autre paradigme que les paradigmes qui donnent tout leur sens au système Terre, système Terre qui est essentiel dans toute l'organisation de la vie dans la cité, que ben oui, 5% d'un côté, 95% de l'autre. Quoi.
Si on tente de comprendre justement ce qui se passe dans ces universités françaises, est-ce que c'est un problème systémique ? On n'a pas assez de moyens pour permettre au savoir climatique d'infuser dans l'ensemble des cours ? Ou bien c'est un problème d'acculturation des enseignants, de formation des enseignants ? Où est-ce que vous pointez justement ce problème-là que vous évoquez à l'instant ?
Pour moi, le problème, il est épistémologique, il touche à la façon dont on va produire les savoirs et il touche à la façon dont on va prendre acte d'un nouveau paradigme ou de nouveaux paradigmes. J'ai un nouveau paradigme, évidemment, j'essentialise un tout petit peu, là, il faut regarder les choses. Voilà, tout est complexe et tout opère au sein de controverses scientifiques, évidemment. Mais en tout cas, cette logique de non-linéarité ou non-proportionnalité, par exemple, si on prend un exemple, alors l'exemple, il va être trivial et puis je souffle dans un ballon de baudruche. J'injecte de l'air dans le ballon et le volume augmente de façon proportionnelle à l'air que j'injecte dans le ballon. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Jusqu'au jour où on a tous déjà fait l'expérience, au moment d'un anniversaire, où paf, 1 millilitre d'air en plus, et le ballon explose. Et là, il y a un effet qui est non linéaire, qui est non proportionnel. Alors, l'image, elle est très simpliste, voilà. Mais elle permet de comprendre quelque chose du fonctionnement du système Terre dans des processus qui sont, eux, des processus qui sont beaucoup plus longs qu'un ballon de baudruche qui explose. Mais cette dynamique-là, qui permet de comprendre l'ampleur du risque que font courir les forçages anthropiques des grands processus du système Terre pour l'ensemble des sociétés, ça, on n'a pas pour l'instant pris la mesure de cette dimension-là dans la production du savoir contemporain.
J'en reviens aussi une dernière fois peut-être, Nathanaël Vallenhorst, sur la façon dont l'université est organisée. Est-ce que le cloisonnement entre les disciplines empêche par nature, par construction même, la diffusion des savoirs climatiques et donc la transformation épistémologique que vous appelez de vos voeux ?
Oui, ça c'est sûr. En tout cas, l'organisation du savoir avec les différents compartiments du Conseil national des universités, etc., n'aide pas pas à ces savoirs transdisciplinaires, pluridisciplinaires, même s'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, en tout cas, c'est sûr, mais pour l'instant, qui restent très cosmétiques par rapport au mode même de production des savoirs.
Donc, je l'ai dit, vous lancez pour Actes Sud une nouvelle collection intitulée Sims System Terre, et vous êtes l'auteur du premier numéro de cette collection. Vous intitulez ce premier ouvrage « Les trajectoires du système Terre durant l'Anthropocène ». C'est l'article, en tout cas, que vous décidez de commenter, puisque chaque livre est composé d'un article scientifique, purement scientifique, commenté par un chercheur en sciences sociales. Pourquoi avoir décidé, justement, de commenter celui-ci en particulier, « Les trajectoires du système Terre durant l'Anthropocène » ? Il est signé du chimiste américain Will Stephan et de 15 autres chercheurs.
En fait, c'est un rêve que j'ai depuis 10 ans. C'est-à-dire, j'ai découvert, je viens d'une toute autre formation que la formation géoscientifique. Et à un moment donné, j'ai découvert des articles comme ça et j'ai commencé à en lire quelques-uns, des articles de climatologie, de constitution chimique de l'atmosphère, des océans, etc. Et bon, bref, je me suis complètement passionné pour ces savoirs-là. Et je me suis passionné, mais fondamentalement, ils m'ont profondément altéré. J'ai demeuré, j'ai envie de dire, en présence de ces savoirs scientifiques pendant plusieurs années, et ça a généré une véritable déflagration existentielle. C'est-à-dire, ça m'a permis, en comprenant la Terre, par répercussion, mes conceptions de la société, de l'éducation, de l'économie, de la culture, etc., ont été transformées. Hannah Arendt, elle nous dit, par exemple, c'est comme s'il y avait une tente dressée sur la Terre, la tente étant le monde, garant de l'hospitalité à l'égard des générations à venir, elle est plantée sur la Terre. Et si la Terre bouge, de fait, la tente, c'est-à-dire cet espace qui accueille l'hospitalité des jeunes, est fondamentalement transformé. Alors pourquoi... Donc, désolé, j'ai fait un...
Non, mais c'était passionnant, mais pourquoi justement cet article en particulier, les trajectoires du système Terre durant l'Anthropocène, je redis son titre, pas facile à prononcer.
Alors, parce que cet article, il s'inscrit dans une tradition, on va dire, qui remonte à il y a une quinzaine d'années, la tradition des articles sur les limites planétaires, dont Rockström a été, est l'ambassadeur. Et on connaît les uns les autres en général, ces articles, ces grands articles. Le premier est paru dans Nature en 2009, et puis ensuite, il y en a un qui est vraiment fondamentalement important, celui de 2015 dans Science. Et en gros, ces chercheurs, ce sont des chercheurs un peu particuliers, c'est des chercheurs qui font de la com. Ça, c'est un fait assez rare. Hein. En général, les chercheurs sont plutôt...
La com, vous dire la communication.
Ils explicitent
le fond de leurs articles.
Voilà. De la com, ils marketent leur savoir d'une certaine façon. Là où, en général, les chercheurs sont plutôt des quiches en com, on pourrait dire. C'est-à-dire, le meilleur indicateur, c'est l'indicateur de réchauffement global, ce fameux plus 1,5 ou 2 degrés. On y comprend bien, on croit que c'est une température, on se dit bah, si jamais on était à plus 1,5 ou plus 2 degrés, je serais venu là aujourd'hui en tongs, en short, et puis ça l'aurait fait. Bah, en fait non, c'est une transformation du monde. Et donc du coup, ces chercheurs-là, ce qu'ils nous disent, c'est simplifions la complexité du système Terre en identifiant 9 processus écologiques. Donc le climat, l'acidification des océans, l'anthropisation des sols, le pourcentage d'aérosols atmosphériques, etc., le cycle de l'eau. Et ces processus-là, si on les force trop, on peut franchir un seuil. Et quand on franchit un seuil, il y a un passage brusque et irréversible. On entre dans quelque chose de nouveau qui répond à d'autres processus biogéochimiques.
Vous avez parlé de limites, vous avez parlé de seuil. Il faut nous expliciter la différence entre les deux, justement.
Alors, quand on prend un
processus... Quand on parle de limite planétaire, de quoi parle-t-on ?
Alors, la limite n'existe pas d'un point de vue biogéophysique. Seul le seuil existe. D'un point de vue biogéophysique. Le seuil, c'est un moment sur un processus physique. Un moment qu'on n'arrive jamais à identifier avec grande précision. Tout est complexe et puis il y a des processus qui font que ça ne se passe pas toujours exactement comme on pouvait penser que ça pouvait se passer. Voilà. Et donc le seuil correspond à ce passage brusque et irréversible sans retour en arrière possible. Et comme le système Terre est régi par ces différents seuils, ces chercheurs, dans la foulée de Rockström, se sont dit positionnons des limites, ne dépassons pas une certaine limite pour ne pas faire courir le risque aux sociétés que nous franchissions un seuil et derrière que les conditions qui permettent l'existence soient altérées. Et donc la limite, c'est simplement des chercheurs qui ont décidé, comme ça, de se dire, bah, en fait, c'est à tel endroit où il faut pas dépasser tel endroit. Mais les limites, on attend une chose, c'est qu'elles existent désormais d'un point de vue juridique, dans nos constitutions, dans l'arsenal législatif qui permet à une société de fonctionner. Et pour l'instant, c'est pas le cas. C'est le moins qu'on puisse dire.
J'en reviens encore une fois à cet article de Will Stephen, chimiste américain, naturalisé ensuite, en tout cas, qui travaille aujourd'hui à l'université d'Harvard, enfin, qui travaillait puisqu'il est décédé il y a 2 ans. Qu'est-ce que nous enseigne cet article en particulier? Qu'est-ce que vous, vous retenez justement de fondamental pour la transmission des savoirs bioclimatiques?
Alors cet article, il est intéressant, donc il s'inscrit dans ce cadre-là des limites planétaires, où donc les chercheurs nous disent, bah voilà, il y a 9 limites, 9 seuils, etc. En 2015, ils complexifient encore les choses, ils disent, mais il y en a encore bien plus que 9, parce qu'il y a des seuils et des limites régionales, etc. Voilà. Et donc ça donne quelque chose d'assez précis au niveau scientifique, mais d'un point de vue sociétal, politique, civilisationnel, c'est trop complexe pour qu'on puisse en faire quelque chose. Là, ils tapent du poing sur la table et ils disent, mais bon sang, mais c'est pas possible, ils n'ont rien compris, je vais leur expliquer, ça va être simple. Il y a un seuil, donc il y a une limite. Donc ils font un travail, j'ai envie de dire, de simplification à l'extrême d'une complexité biogéophysique pour lui donner une force dans la capacité d'interpellation des pouvoirs publics, avec, de fait, moins de précision et moins de rigueur au niveau scientifique. Le seuil est où? Ils disent, on ne sait pas exactement, mais aux alentours de 2 degrés. Et donc, la limite, on est dans la limite. Il faut arrêter d'entropiser. Il faut arrêter nos forçages entropiques. Quel est le risque, ensuite? Le risque, c'est qu'il y ait tout un tas d'emballements qui soient hors de portée des activités humaines. On va prendre un tout petit exemple. On va le ressentir ensemble. C'est assez simple. Quand il fait chaud, ça flambe. Les arbres crament. Donc, le carbone patiemment stocké dans un arbre, il est rebalancé dans l'atmosphère. Quand il fait chaud, ça dégèle. Donc, le permafrost, le sol gelé en permanence, sibérien, alaskais, groenlandais, etc., il dégèle. Et donc, il émet du méthane. Il y a une activité microbienne qui reprend. Avec une respiration, ça émet du CO2. Donc, ça réchauffe. Quand ça réchauffe, ça fond. Et donc, les calottes glaciaires arctiques et antarctiques, leur surface, on voit pas à la radio, mais en tout cas, la superficie qui réfléchit le rayonnement solaire.
Vous montrez une zone qui diminue en superficie.
Voilà. Le blanc diminue et donc du coup, il y a plus de captation de chaleur, donc ça se réchauffe, etc., etc. Et dans ce que je viens de décrire, je décris un phénomène d'emballement qui n'a rien à voir avec notre consommation de viande, le trafic aérien, nos SUV, etc. C'est le système Terre qui devient la principale source d'émissions de gaz à effet de serre.
La voix de ce chimiste Will Stephen, vous commenterez après ce qu'il est en train d'expliquer.
Lorsque l'on parle de durabilité, il est très courant d'entendre parler de 3 piliers que sont l'économie, le social et l'environnemental. Cela nous ramène à notre conversation précédente sur les compromis. C'est-à-dire que les gens disent que soit nous devons échanger une certaine valeur environnementale parce que nous avons besoin de nous développer économiquement, ou soit devons-nous éviter de nous développer économiquement ici parce que c'est trop dommageable pour la biodiversité ou l'environnement. Il faut faire des compromis. Ce que nous avons vu lorsque nous avons examiné les limites planétaires en particulier, c'est qu'il ne s'agit pas de 3 piliers égaux qui se substituent les uns aux autres. Il s'agit en fait de ce que nous appelons une hiérarchie imbriquée. Pensez donc à 3 cercles concentriques, le grand cercle à l'extérieur et l'environnement. Essayez maintenant d'imaginer comment continuer à vivre si l'environnement se dégrade. Si nous perdons de l'oxygène dans l'atmosphère, si le climat n'est pas stable, si nous ne pouvons plus assurer les services écosystémiques parce que nous avons perdu trop de biodiversité. C'est pourquoi j'aime dire aux gens de ne pas utiliser le mot environnement. Utilisez plutôt le mot système de survie, car c'est bien de cela qu'il s'agit et notre existence en dépend.
Système de survie plutôt qu'environnement, c'est, j'allais dire, une transformation sémantique, Nathanael Vallenhorst, qui vous paraît justifiée, légitime, importante même?
Complètement, et c'est émouvant d'entendre Will Stephen, parce que c'est un scientifique brillant, qui était un scientifique particulièrement engagé, non pas dans un militantisme, mais engagé dans une production de savoir et pour rendre les savoirs produits accessibles, compréhensibles, et j'ai même envie de dire pour qu'ils nous fassent quelque chose dans nos tripes, d'une certaine façon. Et de fait, les articles de Stephen, moi, m'ont fait quelque chose, voilà. Et oui, système de survie, c'est sûr, c'est bien de ça dont il s'agit, en tout cas, c'est-à-dire c'est ce qui concerne les conditions d'existence. Toute notre vie aujourd'hui, elle procède d'une capacité de maîtrise des écosystèmes où nous dégageons des excédents agricoles Ensuite, on deal ces excédents agricoles. Et ce qui fait qu'on est en train de causer tranquille mimi là tout de suite, c'est parce que ça résulte d'une maîtrise des écosystèmes. Et ces écosystèmes peuvent être maîtrisés parce que il y a une stabilité climatique et une prévisibilité des écosystèmes de la biosphère. Et aujourd'hui, cette stabilité climatique et cette prévisibilité des écosystèmes de la biosphère sont fragilisées avec le risque que quelque chose s'effondre. Et derrière, par voie de conséquence, c'est notre système de survie, notre système de vie qui s'effondre.
Je le disais, Nathanaël Vallenhurst, dans cette nouvelle collection que vous lancez pour Actes Sud, le principe sera toujours le même. Un article scientifique est commenté par un autre chercheur, souvent en sciences sociales. Est-ce que vous croyez justement que les chercheurs en sciences sociales ont cette responsabilité, j'allais dire, de traduire la recherche scientifique des sciences de la nature, ou bien ça se laisse trouver comme ça, et l'inverse pourrait aussi être créé dans cette collection, où on aurait un chercheur en sciences naturelles qui viendrait traduire un chercheur en sciences sociales?
Alors l'inverse est tout à fait possible, et dans le numéro 3, en tout cas, c'est bien un article en sciences sociales qui est traduit. Ce qui était important pour moi dans cette collection, c'est de pouvoir différencier ce qui relève de la science, de la production de savoir scientifique, et ce qui relève des questions de société et du débat sociopolitique, d'une certaine façon. Et de bien différencier l'un de l'autre. Il y a ce que nous savons, et là-dessus, j'ai envie de dire, il n'y a pas de débat, entre guillemets, il n'y a pas de débat. Bien sûr, il y a des controverses scientifiques qui opèrent au sein des modes de production des savoirs scientifiques. Mais un citoyen n'a rien à dire, ça rappe un peu comme ça, mais un citoyen n'a rien à dire sur une question climatique, etc. Par contre, l'endroit où il a quelque chose à dire, et c'est bien le lieu du débat, et c'est un lieu du débat qu'on peine pour l'instant à faire vivre et exister, c'est compte tenu de ces savoirs-là, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on décide? Et il y a une grande question aujourd'hui sociétale, c'est: on arrête qui? On arrête quoi? On arrête quand? Si on regarde le budget carbone restant, à peu près 200 gigatonnes d'équivalent CO2, d'ici 2050, pour demeurer en dessous de plus 1,5, donc ce qui permet au système de survie de fonctionner, on est sur une trajectoire où on va consommer 860 gigatonnes d'équivalent CO2. Donc, il faut qu'on passe de 860 à 200. Voilà. Donc, il y a des activités mortifères que nous devons arrêter. Voilà.
La voix de François de Rugy, il raconte pourquoi les écologistes sont, selon lui, hostiles à l'innovation. Vous nous direz parfois aussi si, justement, on manque d'optimisme quant aux nouvelles technologies.
Normalement, un mouvement écologiste, sa première préoccupation, ça devrait être de dire: voilà comment on peut être efficace dans la protection de la nature et de l'environnement. Voilà même comment on peut restaurer un certain nombre de milieux écologiques qui ont pu être abîmés. Là-dessus, on voit que la science nous apporte beaucoup de données. La recherche, il y a des innovations technologiques qui sont très bonnes pour l'environnement. Or, souvent, le premier réflexe des mouvements écologistes politiques ou associatifs, d'ailleurs, c'est d'être hostile à l'innovation technologique, d'être méfiant parce que ce serait pour faire tourner l'économie. Bah oui, si on peut joindre l'utile à l'agréable, si je puis dire, la protection de la nature et le développement économique, non seulement il ne faut pas s'en priver, mais moi je crois que c'est la solution pour résoudre les problèmes écologiques.
François de Rugy, ancien ministre de la Transition écologique, lorsqu'il dit, Nathanaël Vallenhorst, que c'est la solution, les nouvelles technologies pour lutter contre le réchauffement climatique, vous pointez du doigt justement cette tendance à croire trop vivement, trop fortement dans les nouvelles technologies. En tout cas, vous êtes plus sceptique. Expliquez-nous pourquoi.
Tout simplement parce que j'ai lu des articles scientifiques, en fait. C'est tout ce qu'il n'a pas fait. C'est-à-dire que le problème des questions écologiques, c'est qu'on en fait...
Pardonnez-moi, c'est un argument d'autorité. Expliquez-nous alors en quoi les nouvelles technologies ne nous sauveront pas forcément.
Alors, parce que le problème des questions écologiques, c'est qu'on en fait des questions politiques immédiatement, avant d'avoir pris le temps d'identifier l'ampleur du problème. Et là où se situait le problème. Et aujourd'hui, ce qui importe, c'est que nous diminuions les forçages anthropiques sur les processus écologiques, anthropiques humains. Nous diminuions les forçages humains sur les 9 grands processus écologiques. C'est une modélisation, la modélisation des limites planétaires qui est celle de l'article-là. Et à cet endroit-là, c'est du moins qu'il nous faut trouver. Et c'est pas du autre, ailleurs, autrement, espérons que, etc.
Je vous cite une nouvelle fois, de fait, c'est un extrait du livre que vous faites paraître. De fait, quand on imagine une action politique à la hauteur des enjeux, la dictature apparaît régulièrement comme une menace possible, fin de citation. La dictature, ou en tout cas un pouvoir autoritaire écologique qui prendrait pour nous les bonnes décisions en matière de politique publique pour tenter de ne pas forcer justement ces limites planétaires. Pourquoi vous n'y croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas justement qu'un régime autoritaire pourrait nous permettre d'aller mieux et plus vite dans ce domaine?
Ben moi, j'ai jamais observé ça. C'est-à-dire, pour moi, un pouvoir fort, d'une certaine façon, il ne peut être centré que sur lui-même et pas sur la pérennité de la vie humaine en société. Je sais bien qu'il y a quelque chose qui peut être séduisant ou attirant, et je l'entends régulièrement de la part des étudiants, en fait, une espèce de petite dictature verte à la chinoise ou un truc comme ça.
Un pouvoir fort et éclairé ?
Pouvoir fort et éclairé, moi, en tout cas, de mon point de vue, et donc à cet endroit-là, on n'est pas dans le registre strictement scientifique, mais dans le registre citoyen. Et là, je vous parle d'une certaine façon de mes convictions. Moi, à cet endroit-là, je suis démocrate et je ne veux pas sortir du giron démocratique. Mais si je ne veux pas sortir du giron démocratique, c'est aussi au nom d'un certain rapport aux faits. Voilà.
Merci beaucoup Nathanaël Vallenhorst. Je rappelle le titre de cet ouvrage qui vient de paraître, Contenir l'emballement bioclimatique. C'est aux éditions Actes Sud dans une nouvelle et belle collection, je le disais, intitulée Système Terre. Pour l'instant, on en est au numéro 3.
On a le 1, le 2, le 3 et le 4 sortent en septembre.
Et bien voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Questions du soir.
Un grand merci.